L'été avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI, nos experts ici à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe. Vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI à appel sur l'actualité, sans oublier de nous indiquer un numéro de téléphone, car le principe de cette émission est de vous donner la parole, que vous puissiez évidemment être en direct avec nous. Et puis dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'impasse politique qui s'éternise en République démocratique du Congo. C'est vrai que tout semble indiquer que le scrutin présidentiel prévu en novembre prochain ne se tiendra pas dans les délais. Du coup, pour faire pression sur le président sortant, l'opposition s'est réunie la semaine dernière à Bruxelles. Et à l'issue de deux jours de conciliabule, les opposants ont décidé de s'unir. Ils ont créé une nouvelle structure baptisée Rassemblement et ils exigent l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, mais surtout le départ de Joseph Kabila de la présidence dès le 20 décembre. Le 20 décembre correspond à la fin du second et dernier mandat donc de Joseph Kabila. On va en parler. Dites-nous comment sortir de cette impasse politique. Je lirai évidemment quelques-unes de vos réactions tout à l'heure. Elles sont nombreuses sur la page Facebook de l'émission. Sinon, toute l'équipe vous attend au standard. Je vous redonne le numéro 33 9 693 693 70. La première question du jour nous vient de Côte d'Ivoire. Célestin nous appelle de Yamoussoukro. Bonjour Célestin.
Bonjour Monsieur Juan.
Et vous avez des questions après l'attentat qui a frappé Tel Aviv mercredi dernier.
Oui. Comment expliquer que deux Palestiniens puissent entrer en Israël sans que les services de renseignement israéliens en s'aperçoivent et puissent commettre un tel attentat? Deuxième question, quelle est la réponse du gouvernement israélien à cette attaque?
Et je rappelle que 4 personnes ont été tuées, 5 ont été blessées. Bonjour Muriel Paradon.
Bonjour Juan.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Jérusalem. Alors les deux assaillants, les deux Palestiniens ont été arrêtés. L'un est d'ailleurs gravement blessé par balle. Une chose est sûre, comme le rappelle Célestin à l'instant, c'est que ces deux hommes ont réussi à s'infiltrer en Israël. Ils ont finalement déjoué les mesures de sécurité.
Oui, ce sont deux cousins originaires de Yatta, près de Hébron, en Cisjordanie occupée. Et ils n'avaient apparemment pas d'autorisation d'entrée, pas de permis de travail en Israël, comme c'est le cas pour la plupart des Palestiniens qui ne peuvent pas se déplacer librement. Ils vivent sous occupation israélienne, hein, il faut le rappeler. Et effectivement, malgré les checkpoints, les contrôles, le mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël, eh bien, il y a toujours des failles. Les Israéliens ne peuvent pas tout contrôler. Vous savez, si vous prenez les checkpoints, ils ne sont pas infaillibles. Certains sont plus légers que d'autres. On s'en rend compte assez vite quand on fait du reportage en Cisjordanie. Pour le mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël, il faut savoir qu'il n'est pas terminé. Il n'est pas présent partout. Et puis ce mur, eh bien, on peut le passer. Moi, j'ai déjà vu un Palestinien une fois passer avec une corde au-dessus de ce mur haut de plusieurs mètres de hauteur pour aller travailler illégalement en Israël. Tous les Palestiniens ne passent pas, évidemment, pour commettre des attaques. Donc, encore une fois, il n'y a pas de sécurité à 100%. Ce qui est à noter dans ce cas de cette fusillade à Tel Aviv, c'est que les deux auteurs présumés ont frappé un centre commercial qui se situe juste en face, de l'autre côté de la route, du quartier général de l'armée et du ministère de la Défense, qui sont des endroits hautement sécurisés. Alors on ne sait pas si ces Palestiniens ont ciblé ce centre commercial, le Sarona Market, parce que c'est un endroit très fréquenté ou pour sa proximité avec le quartier général de l'armée, pour la symbolique en fait. En tout cas, ça a évidemment beaucoup marqué les esprits ici.
Et dès le lendemain de l'attentat, Israël a pris un certain nombre de mesures, notamment en restreignant la liberté de mouvement des Palestiniens.
Oui, alors une restriction qui est en cours de toute façon en temps habituel, mais là, il y a eu la suspension de 83 000 permis d'entrée pour les Palestiniens en Israël et à Jérusalem, permis de visite pour les familles en période de Ramadan. Vous savez que durant ce mois sacré pour les musulmans, les familles aiment se rendre visite. Donc, ceux qui sont en Cisjordanie avaient des permis exceptionnels pour aller à Jérusalem ou en Israël, puisqu'il y a des Arabes israéliens qui ont de la famille en Cisjordanie. Et cette suspension de permis, 83 000 personnes, eh bien, c'est clairement vraiment une punition collective. C'est très mal vécu par les Palestiniens. Autre mesure annoncée, le bouclage total de Yatta, cette ville d'où sont originaires les assaillants présumés. Il y a eu des mesures contre les familles de ces assaillants. Des personnes ont été arrêtées. Les permis de travail pour ceux qui en avaient dans les familles ont été supprimés. Le bouclage à l'orculier de Yatta est toujours en vigueur. L'armée avait aussi annoncé un bouclage des territoires palestiniens pendant 3 jours jusqu'à ce matin, mais c'était une mesure davantage annoncée en raison de la fête juive de Shavuot. Les territoires sont en général bouclés pendant les fêtes juives, et puis Israël a quand même laissé passer vendredi dernier un certain nombre de personnes, les femmes et les hommes de plus de 45 ans, pour aller prier sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Quoi qu'il en soit, évidemment, il y a eu ces sanctions, et puis un renforcement de la sécurité. Des centaines de soldats ont été renvoyés en renfort en Cisjordanie. Voilà pour ces mesures. Après l'attentat de Tel Aviv, le gouvernement veut montrer qu'il prend des mesures fortes. D'ailleurs, au lendemain, sur place, il y avait le défilé de tous les hommes politiques du gouvernement, mais pas seulement, sur les lieux, au Sarona Market. On verra si ce genre de mesures continue dans les semaines qui viennent. Ça dépendra aussi, bien sûr, de la situation, si la situation reste calme ou pas pendant cette période de Ramadan.
Oui, le nouveau ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui est réputé pour sa ligne très dure vis-à-vis des Palestiniens, a eu des propos très fermes. Je n'ai pas l'intention de m'en tenir à des déclarations. On peut donc s'attendre à d'autres mesures. Merci beaucoup, Muriel Paradon, d'avoir été en direct avec nous de Jérusalem. Célestin, bonne journée à Yamoussoukro, où il est 8h17. Ce sont vos questions. 33 9 693 693 70. Raphaël, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour les hôtels RFI, bonjour l'antenne RFI.
Merci Raphaël d'être avec nous. Vous nous appelez de Pointe-Noire et vous avez des questions concernant Simone Gbagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire.
Effectivement, monsieur Juan, l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo bien sûr, comparée pour crime contre l'humanité. Donc j'ai des questions. Dans quelle mesure madame Gbagbo était-elle impliquée dans les affaires d'État?
Oui.
En qualité de quoi peut-elle être condamnée?
Alors, elle est jugée effectivement depuis 10 jours par la cour d'assises d'Abidjan pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Anna Sylvestre est avec nous. Bonjour Anna.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes l'une des correspondantes d'RFI à Abidjan. Alors, Simone Gbagbo est soupçonnée d'avoir joué un rôle prépondérant pendant la crise post-électorale de 2010-2011. C'était il y a 5 ans.
Oui, tout à fait. C'était en 2010-2011, alors que vous vous en souvenez, Juan Alassane Ouattara, qui était soutenu par la communauté internationale, et Laurent Gbagbo, le chef d'État sortant, revendiquaient tous les deux la victoire à l'élection présidentielle. Les combats entre leurs deux camps ont fait au moins 3000 morts. Pendant cette période-là, eh bien, Simone Gbagbo est soupçonnée par l'accusation, du moins, d'avoir été au cœur du pouvoir ivoirien. L'ancienne première dame aurait en fait été à la tête d'une cellule de crise qui, à la résidence présidentielle, en dehors de tout cadre, organisait quotidiennement la répression. C'est ce que dit l'arrêt de mise en accusation. Celui-ci souligne en fait l'emprise de Simone Gbagbo sur les partisans de son mari. Il affirme de suite qu'elle a pris une part prépondérante dans la commission d'infraction à l'encontre des civils. Ce document parle de milices et de mercenaires qu'elle aurait dirigés. Pour l'accusation donc, Simone Gbagbo...
Ah, on a perdu Anna Sylvestre, qu'on va essayer de retrouver. On a eu des petits problèmes de réseau téléphone avec Anna Sylvestre depuis le début de son intervention. On va y revenir évidemment. Raphaël, ne raccrochez pas. On essaie hors antenne de rétablir le réseau téléphone, la liaison évidemment, et on va tout vous expliquer sur ce que reproche l'accusation à Simone Gbagbo, l'ex-première dame, qui, comme le disait Anna à l'instant, est accusée d'avoir créé au sein même de la résidence présidentielle une cellule qui préparait toutes les exactions commises par les forces favorables au régime de son époux Laurent Gbagbo. Donc ne raccrochez pas Raphaël, on vous retrouve dans un instant. Fayala, ah, on me dit que Anna Sylvestre est de nouveau avec nous. Anna ?
Oui, je suis avec vous.
Alors, ce rôle, Simone Gbagbo, elle ne le reconnaît absolument pas. Elle rejette d'ailleurs toutes les charges qui pèsent contre elle.
Oui, elle a plaidé non coupable, Simone Gbagbo, dès le début de son procès. Elle dit n'être jamais intervenue dans les affaires d'État, de n'avoir jamais eu un quelconque lien avec des milices. Il y a quelques jours, lors de l'audience, elle expliquait qu'être première dame n'était qu'un rôle de représentation et qu'elle s'occupait alors surtout du foyer et de la restauration. À vrai dire, Juan, quel a été exactement le rôle de Simone Gbagbo pendant cette période, cette crise post-électorale? Eh bien, c'est l'enjeu de ce procès.
Voilà, un procès qui dure encore quelques semaines à Abidjan devant la cour d'assises. Merci beaucoup Anna Sylvestre d'avoir été avec nous. Raphaël, bonne journée à Pointe-Noire. On va s'intéresser maintenant à l'OTAN. L'OTAN qui a des doutes sur la sincérité de la Russie. Bonjour Fayala.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Guinée-Conakry.
Oui, vous êtes à Sigiri, c'est en Guinée-Conakry, on vous écoute.
Exactement. L'OTAN redoute une crise avec la Russie qui serait une menace potentielle. Juan, j'ai des préoccupations. Pourquoi l'OTAN considère la Russie comme une menace potentielle? Comment ont réagi les autorités russes à cette déclaration?
Oui, d'ailleurs, depuis la semaine dernière, se déroule en Pologne le plus grand exercice militaire de l'OTAN jamais organisé depuis la chute du bloc communiste. Mathieu Bouleg est avec nous, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour.
Vous êtes associé pour le cabinet de conseil en management des risques AESMA et vous êtes spécialiste des questions stratégiques et sécuritaires dans l'espace post-soviétique. La Russie serait une menace potentielle. Comment peut-on comprendre cette déclaration?
Eh bien, on peut la comprendre tout simplement en inversant la question et en se demandant pourquoi la Russie est une menace pour l'OTAN. En fait, les deux parties se considèrent comme des menaces potentielles et agissent comme telles. Il y a une espèce de cercle vicieux d'incompréhension mutuelle qui date globalement depuis la fin de la guerre froide sur la nature même de l'OTAN et sur la réponse à apporter à la fois par la Russie et par l'OTAN de cette perception de la menace. Donc en fait, c'est un problème à la fois de l'œuf ou de la poule de savoir qui est une menace pour qui et quelle est en fait l'origine de cette conception de la menace et qui est en réalité causée par des aveuglements mutuels et des problèmes de compréhension mutuelle de la nature même des deux blocs.
Ouais, mais on peut dire quand même que depuis l'annexion de la Crimée par la Russie, les relations se sont tendues entre Moscou et l'OTAN.
Tout à fait, elles sont particulièrement tendues. C'est un cycle aujourd'hui de tension, une situation de tension qu'on peut caractériser de nouveau normal, de nouvelle normalité, qui est une caractéristique intrinsèque de cette relation entre la Russie et l'OTAN et qui risque de durer encore des années.
Ouais. Ah oui, effectivement. D'autant que l'OTAN, on le voit bien, renforce sa présence depuis plusieurs mois en Europe de l'Est. Elle se rapproche finalement de plus en plus de la Russie. C'est très mal perçu, évidemment, à Moscou, ce rapprochement.
Exactement. Et c'est justement tout ce qui est reproché par le Kremlin à l'heure actuelle. C'est cette perception d'un renforcement des troupes de l'OTAN, donc potentiellement des troupes ennemies, sur le voisinage russe, ce que la Russie estime être son étranger proche, c'est-à-dire une zone d'influence privilégiée sur laquelle un bloc militaire considéré comme étranger ou ennemi ne peut pas s'installer.
Et la Russie a raison de s'inquiéter ou pas? De se sentir tout du moins menacée justement par la présence de plus en plus renforcée de l'OTAN à ses frontières?
Mais c'est justement ce cercle vicieux d'incompréhension mutuelle et de problèmes de décalage dans la perception de la menace. Si effectivement Moscou estime qu'un renforcement des troupes est une menace, on ne peut rien y faire à part rentrer dans cette espèce de cercle vicieux qui est renforcé par le fait que finalement l'OTAN va faire une réalité des menaces de la Russie, de la perception de la menace de la Russie.
Il va y avoir le sommet de l'OTAN dans quelques semaines, dans un mois, si ma mémoire est bonne, à Varsovie, en Pologne. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que l'OTAN va essayer de désamorcer la crise ou au contraire, l'OTAN va peut-être prendre des mesures, peut-être pas radicales, mais l'OTAN va affirmer sa fermeté face à Moscou?
Alors tout à fait, il y aura probablement des déclarations qui vont aller dans le sens d'une fermeté, qui a toujours été le cas depuis les opérations militaires russes en Crimée et dans le Donbass. Aujourd'hui, on est à un point où on passe en permanence de renforcement d'un discours relativement belliqueux des deux côtés, à des exercices militaires renforcés aussi bien du côté OTAN que du côté russe, à la frontière de la Russie, notamment récemment en Pologne ou également dans les pays baltes avec les opérations militaires qui se sont déroulées récemment.
Oui.
Si vous voulez, c'est un espèce de glacis, non pas de glacis, mais plutôt de chaîne de bases militaires que l'on met en place d'un côté et de l'autre de la frontière russe, d'un côté avec l'OTAN dans les pays est-européens et de l'autre côté avec la Russie, qui en fait renforce ce sentiment d'une menace et ce problème de décalage de perception.
Oui, en tout cas, on voit bien que l'OTAN montre ses muscles hein, depuis quelques jours en Pologne, où se déroule une opération de grande envergure. 31 000 soldats de 24 pays sont présents avec des milliers de véhicules, de nombreux avions, des navires. C'est l'exercice Anaconda, voilà pour l'opération code de cette opération menée par l'OTAN à Varsovie depuis la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous, Mathieu Bouleg, et on remercie évidemment Fayala de nous avoir appelé de Guinée. N'oubliez pas, dans un quart d'heure maintenant, juste après le journal, notre débat du jour consacré à l'impasse politique en République démocratique du Congo. On reviendra évidemment sur le conclave organisé la semaine dernière à Bruxelles par l'opposition. Il y avait une centaine de délégués de l'opposition qui a fait le voyage en Belgique pour essayer de trouver une stratégie afin que les délais constitutionnels soient respectés et que l'élection puisse se dérouler comme prévu au mois de novembre. Il est 10h25 à Paris. Encore une question ce matin sur l'antenne des RFI. Fiston, bonjour.
Bonjour Wango, bonjour à tous les techniciens de RFI.
Merci pour eux, Fiston. Vous avez des questions concernant Isaac Zida, l'ex-premier ministre du Burkina Faso.
Évidemment, Isaac Zida est accusé d'un certain nombre de choses, notamment de corruption. Il se trouve présentement au Canada. Quels sont les faits reprochés à Isaac Zida? Roch Marc Christian Kabore exige le retour donc de l'ancien premier ministre au pays. Quels sont les moyens à la disposition du président pour le faire revenir?
Alors c'est vrai que le président Roch Marc Christian Kabore exige que l'ancien premier ministre du gouvernement de transition revienne au pays pour rendre des comptes sur sa gestion. Bonjour Yaya Boudani.
Bonjour Juan, bonjour Fiston.
Vous êtes le correspondant des RFI à Ouagadougou. Alors ça fait plusieurs mois maintenant que le nom d'Isaac Zida est cité dans différentes affaires, notamment des affaires de corruption. Concrètement, quels sont les faits qui lui sont reprochés?
Alors déjà, il faut signaler qu'avant la fin de la période de la transition, le général de division Yacouba Isaac Zida avait lui-même demandé que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption fasse un audit sur la transition. Alors le président Michel Kafando avait lui également exigé un outil de la présidence du Faso. Alors le fauteuil présidentiel ayant été occupé pendant 21 jours par Yacouba Isaac Zida et à l'époque il était lieutenant-colonel. Donc les résultats de ces audits font ressortir des irrégularités dans la gestion des finances. À la présidence par exemple, les contrôleurs ont découvert un manque de plus de 1 milliard de francs CFA dans les caisses. Et selon le président Roch Marc Christian Kabore, Zida faisait des opérations sur un compte de la présidence alors qu'il était toujours premier ministre. Et Michel Kafando, qui était le président de l'époque, le savait également. Alors, au premier ministère, des centaines de millions ont été sortis des caisses, avec seulement des décharges signées par le directeur du cabinet de Yacouba Isaac Zida à l'époque. Il y a aussi l'affaire des parcelles achetées par l'ex-premier ministre en dessous des cours réels. Et puis, sur le plan militaire, il est devenu général de division. Il doit impérativement rejoindre son poste d'affectation après la dissolution de l'ex-RSP. Son ancien régiment, il a été réaffecté dans une autre unité comme tous les autres officiers et soldats de ce régiment dissous.
Oui, seulement le problème, c'est que Isaac Zida est parti au Canada depuis son départ du gouvernement. Le président Roch Marc Christian Kabore exige son retour. Concrètement, quelle est la marge de manœuvre du président de la République pour qu'il revienne à Ouagadougou?
Alors, le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore, en même temps le ministre de la Défense, c'est à ce titre qu'il a donné la permission au général Zida d'aller rendre une visite à sa famille au Canada. Alors, cette permission étant arrivée à son terme depuis le 19 février, l'officier supérieur devait rejoindre son poste. Il ne l'a pas fait, donc le ministre de la Défense, après ce constat, va émettre un avis de recherche, déjà pour déterminer la position exacte du général Yacouba Isaac Zida. Ensuite, il demandera au pays d'accueil de l'extrader, car il pourrait être considéré comme étant un officier supérieur en désertion en temps de paix. Et là, à ce titre, ce qui pèse contre Zida, c'est le Conseil de discipline militaire.
Ah oui, donc le président Roch Marc Christian Kabore menace de considérer Zida comme un déserteur. Il lui a donc demandé de revenir au pays, sans toutefois, c'est important de le préciser, Yaya Boudani, fixer un ultimatum pour qu'il revienne. Merci d'avoir été avec nous, Fiston, bonne journée. C'était la première partie d'Appel sur l'actualité. On sera de retour demain avec d'autres questions, évidemment. D'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Dans des minutes, notre débat du jour consacré à l'impasse politique en République démocratique du Congo. Toute l'équipe est là, on vous attend au standard. Nous lancerons le débat avec des positions, vous le verrez, très divergentes ce matin sur l'antenne des RFI. A tout de suite, merci d'être avec nous.
Priorité Santé.
Claire Hédon vous invite à